Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'invités de ce podcast le pensent, c'est principalement par les plus jeunes que la transition écologique se fera. C'est par l'éducation que les comportements changeront. Et de fait, en France, ce sont 12 millions d'élèves qui fréquentent cette année la primaire, le collège ou le lycée. Mais qu'en est-il? Où en est-on aujourd'hui dans l'éducation nationale sur le sujet? Comment développer davantage la question? Quels freins peut-on identifier? Si la loi Egalim votée en 2018 a permis quelques avancées dans le domaine de l'alimentation durable en ciblant particulièrement la restauration collective, les programmes scolaires semblent encore très silencieux sur le thème de l'environnement. Face à ce constat, plusieurs acteurs et actrices voient aujourd'hui l'intégration de l'éducation alimentaire dans les cursus scolaires comme une nécessité. C'est le fer de lance de l'École Comestible, une association qui prône l'éducation alimentaire dans les cursus scolaires et qui a été fondée par Camille Labro, notre intervenante aujourd'hui. Bonjour Camille.
Bonjour Fanny.
Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Bah oui, je m'appelle Camille Labro et je suis journaliste culinaire à la base.
Vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'épisode qu'on avait enregistré sur justement est-ce qu'il faut être une femme pour être journaliste culinaire engagée.
Voilà, et je suis donc journaliste culinaire engagée, ce qui nécessairement veut dire qu'on ne parle pas que de gastronomie, mais aussi d'agriculture, de production équitable, d'alimentation durable, surtout à tout point de vue. Et j'ai monté donc à titre associatif l'École Comestible à l'automne 2019.
Donc projet tout récent. Comment c'est venu ce projet? Comment tu as eu cette idée? Comment ça s'est concrétisé?
Il y a plein de choses qui ont causé la naissance de l'École Comestible et autant dire que ça bouillait, ça marinait en moi depuis très longtemps. J'ai eu une éducation très centrée sur la bonne alimentation, donc moi-même j'ai eu la chance d'être éduquée. D'avoir une éducation comestible très poussée et de très très bien manger toute mon enfance, donc ça c'est déjà un point. Par ailleurs, j'ai trois enfants que j'ai aussi essayé d'éduquer au maximum sur ces sujets-là et il s'avère que ce sont de bons mangeurs et de très bons cuisiniers, donc je suis assez fière. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a ma proximité à la fois personnelle et professionnelle avec Alice Waters, qui est une chef américaine, californienne plus exactement, qui a monté le restaurant chez Panisse, qui est très connu aux États-Unis, pour être un peu le précurseur du courant de la table à l'assiette, du courant farm to table, donc de la ferme à l'assiette aux États-Unis, et qui il y a 25 ans a monté l'Edible Schoolyard dans une école de Berkeley en Californie et qui est un exemple complètement extraordinaire de ce qu'on peut faire en termes d'éducation et de pédagogie à travers un jardin potager et à travers l'alimentation. Moi, ce jardin, je l'ai plusieurs fois visité, je l'ai même filmé, j'en ai parlé dans des articles, et fréquenté à titre personnel aussi, puisque il s'avère que Alice Waters est aussi ma marraine personnelle par amitié avec mes parents. Et c'est une énorme source d'inspiration qui, soit dit en passant, a inspiré 5000 cas exemples dans le monde entier, des écoles, des associations, des collectifs de quartiers qui ont chacun monté quelque chose autour de cette idée de l'éducation comestible.
Incroyable. Surtout aux États-Unis ou?
Ouais, surtout aux États-Unis. Pas mal aussi en Italie grâce à Slow Food, parce qu'il faut savoir que Alice est aussi vice-présidente de l'organisme Slow Food International, qui étrangement n'a jamais vraiment percé en France et reste presque anecdotique en France, on va dire, alors que c'est un mouvement très puissant aux États-Unis comme en Italie, dont c'est le berceau, et qui prône une alimentation bonne, propre et juste. Et forcément de la terre à l'assiette. Donc en Italie, il y a beaucoup de jardins potagers pédagogiques et aux États-Unis aussi, et dans quelques pays, un petit peu en Australie aussi, enfin dans pas mal de pays anglophones, pas mal en Allemagne aussi, et puis rien du tout en France. Et l'un des déclics, c'était un jour, on regardait finalement cette carte géographique du monde des Edible Schoolyard ou Inspiration avec Alice, et elle me disait, mais pourquoi il y a rien en France? Pourquoi il y a pas un point? Il faut savoir que en fait, chacun se pointe soi-même sur cette fameuse map monde, et donc personne ne s'était n'avait pointé en France.
Donc tu t'es senti une responsabilité.
Alors
de pointer.
Ça oui, voilà, je me suis dit j'ai mis du temps à l'accepter hein, parce que c'était quand même une lourde responsabilité. Et puis c'était peut-être un peu prétentieux aussi. Est-ce que c'est à moi qu'il revient de mettre l'Edible Schoolyard et l'Edible Education sur la carte en France? Finalement, au fil du temps et en acceptant cette responsabilité progressivement, c'est venu comme ça.
Et comment tu l'as accepté justement cette responsabilité?
Je me suis pas rendu compte du poids et de la responsabilité que ça allait être justement. Au début, j'ai lancé ça comme si c'était un truc presque un coup de tête. Mais je savais quelque part que ça allait être un truc énorme, mais je voulais pas le voir. Et ça a démarré l'été 2019 par un appel que j'ai lancé sur Facebook, très simple, ou quelque part presque pour me jeter moi-même à l'eau, pour voir ce que ça allait donner. Donc j'ai mis un petit mot sur mon Facebook personnel en disant « Et si on lançait l'école comestible en France, qui serait partant ?» Et j'ai eu une avalanche de réponses par plein de réseaux différents, le Facebook en messagerie, des textos, des appels, des emails. Et je me suis dit, j'ai eu 200, en l'espace de, je sais pas, moins d'une semaine, j'ai eu 200 réponses.
Ah oui.
Venant de toutes sortes de provenances, quoi. Des chefs, des amis, des journalistes, des activistes, des vieux, des jeunes, des profs, etc. Et je me suis dit, voilà, ça c'est la preuve qu'il faut le faire.
Génial.
Et donc on a structuré, j'ai pris quelques personnes proches avec moi et on a structuré l'asso en montant les statuts, etc., assez rapidement. Et au moment même où on avait la publication au journal officiel, on démarrait les ateliers.
Et c'est marrant dans ce que tu racontes, c'est avant tout, j'ai l'impression, un projet inspirationnel. C'est venu d'une inspiration forte. T'as quand même fait des constats délétères avec tes enfants à l'école, j'imagine.
Alors, c'est un autre déclic. C'était une histoire que je raconte souvent parce qu'elle est quand même frappante. Mon fils, qui aujourd'hui est en première au lycée, entrait en CP dans une nouvelle école du 11e arrondissement, où d'ailleurs ma petite est toujours.
À Paris.
Et à Paris. Et je visitais donc l'école. Et il y a un jardin magnifique sur le toit. Et donc, je suis complètement excitée. Et je dis à la maîtresse, oh là là, mais c'est génial, mais à quelle fréquence y emmenez-vous les enfants quand vous êtes à l'école? Et elle me dit, ah non, mais vous n'y pensez pas. Si on faisait ça, si on allait au jardin, on n'aurait pas le temps pour faire le programme. Et vous imaginez, moi, mon truc dans ma tête, c'était, mais pourquoi c'est pas au programme? ça n'a pas de sens d'opposer le programme à une activité potagère qui est tellement extraordinaire et reconnue pour ses bienfaits pédagogiques. Donc ça m'a frappée. Et dès le moment où mon fils était en CP, il y a donc 10 ans, j'ai essayé de me battre avec notamment cette école pour faire quelque chose. Ça n'a pas trop marché parce que j'étais perçue comme une parent d'élève. Et quand on est parent d'élève, ceux qui le sont savent, on n'est pas toujours bienvenue dans le corps pédagogique de l'école. On est perçu un peu comme un opposant, comme quelqu'un qui met des bâtons dans les roues et qui est toujours là pour faire chier, etc. Or, c'était pas du tout mon but. J'avais envie de proposer quelque chose d'un peu neuf. Mais ça s'est pas super bien passé. Donc aujourd'hui, je suis revenue avec un autre, enfin un autre biais, qui est celui d'une association où je passe pas pour une parent d'élève, quoi. Je passe pour une activiste.
Oui. Et avec tes enfants, est-ce que tu avais ressenti ce besoin pour eux d'être plus en lien justement avec la terre, avec la façon dont on produisait les choses?
Bah bien sûr, on est en ville, hein, on habite Paris. Mes enfants sont nés à Paris dans le 12e arrondissement. C'est vraiment des petits urbains. Moi pas. Moi j'ai grandi avec un jardin, donc d'accord, j'ai aussi cette écho-là en moi et ça me manque énormément d'ailleurs. Au point où je fais des plantations absolument partout dans notre maison. J'ai pas même pas un balcon, hein. J'ai des petits rebords de fenêtres et il y a des trucs verts partout sur toutes les fenêtres. Au point où l'été parfois ça devient une espèce de jungle à l'intérieur parce qu'il y a plus qu'une lumière verte qui transparaît. Et évidemment c'est des choses qui se mangent toujours.
D'accord.
C'est toujours des légumes, des haricots, des cucurbitacées, des fraisiers, etc. Et donc mes enfants ont grandi avec ça, ils sont très attachés. C'est-à-dire que la fraise, quand elle pousse, il y en a pas beaucoup, mais quand il y en a une qui pousse sur notre bord de fenêtre, elle a une valeur extraordinaire. Et ça aussi, c'était quelque chose qui m'a vraiment paru essentiel. C'est-à-dire que cette espèce de besoin constant des enfants de se rattacher à ces petites choses qui poussaient et la valeur qu'ils leur donnaient, qui était bien plus grande quand c'était poussé sur notre fenêtre que quand c'était acheté en barquette au magasin.
J'imagine. Quand on regarde plus en détail l'école comestible, j'ai l'impression que votre fer de lance, c'est l'idée qu'on peut changer le monde par son alimentation. C'est vrai ça ?
Ah, moi j'en suis persuadée, évidemment. En fait, l'école comestible, c'est on fait des tas de petites choses, mais on a des ambitions énormes. Donc la vision de changer le monde, elle est réelle. Elle est vraiment là et l'objectif à très très long terme, mais peut-être au-delà de, enfin je serai peut-être morte quand ça arrivera, si ça arrive, je l'espère, c'est vraiment de pouvoir toucher tous les enfants, d'être dans toutes les écoles et donc d'une certaine manière d'être inscrit au programme,
oui,
au programme de l'éducation nationale dans les écoles publiques. Et le truc c'est qu'on peut pas y arriver en passant par la grande porte. Donc on fait plein de petites choses et on noue plein de liens à diverses échelles, des écoles, des enseignants, du périscolaire pour mettre un pied dans les portes, dans plein de portes et entrer comme ça par toutes les petites portes sur ce terrain-là de l'éducation nationale.
Mais alors explique-nous concrètement pour ceux qui ne connaissent pas l'école comestible, qu'est-ce que vous faites ?
Alors on fait concrètement on fait des ateliers. On fait des ateliers autour qui vont de la terre à l'assiette. Donc des ateliers autour de l'alimentation qui vont de la terre à l'assiette. Donc qui incluent à la fois des ateliers potagers. S'il n'y a pas de potager dans l'école, on les crée et on sème et on plante des tas de comestibles. Et jusqu'à la cuisine, évidemment, transformation des aliments, des légumes, etc. Avec plusieurs grands principes qui sont, un, évidemment, qu'il y ait cette continuité de la terre à l'assiette et que l'enfant puisse comprendre d'où vient une carotte, que la carotte a poussé dans la terre, etc. Donc la meilleure manière de lui faire comprendre,
c'est
de le voir et de le faire. Mais aussi, évidemment, presque par nécessité, très axé sur le végétal. D'abord parce que, pour parler de la terre à l'assiette, ça passe par le végétal essentiellement. Ensuite, parce que c'est bien plus facile de faire entrer du végétal dans les écoles que de l'animal. Par exemple, faire de la viande dans nos ateliers, c'est sanitairement, c'est un peu délicat. Et surtout, parce que ça nous semble évident que l'alimentation de demain, elle doit être non pas végétarienne forcément, mais beaucoup plus axée sur le végétal. Et qu'en plus, clairement, d'après tous les tests qu'on a fait, les petites évaluations qu'on a pu faire comme ça, les enfants n'y connaissent plus rien aux légumes. C'est-à-dire que si vous faites un petit test devant une classe en leur montrant une betterave entière avec les fans et la racine, etc. Aucun, mais zéro, ne savent ce que c'est.
C'est vrai.
Alors qu'ils en mangent toutes les semaines. À minima, ils en mangent une fois par semaine à la cantine. Mais en petits cubes rouges, quoi. Et donc, pour eux, la betterave, c'est des petits cubes rouges. Et franchement, je pense que c'est sur les...
Ça me surprend ce que tu dis, parce qu'en plus, t'es dans des écoles... Enfin, là, l'école dont tu parles de tes enfants, c'est des écoles du 11e, dans des endroits où tu peux penser qu'il y a une éducation, au moins dans les familles.
Ça change rien. C'est-à-dire que comment ils auraient vu une betterave, ces enfants? C'est des urbains. Ils cultivent pas. D'ailleurs, même si on a un jardin, c'est pas hyper fréquent de cultiver une betterave dans son jardin. Et il y a très très peu de magasins, d'épiceries, de légumeries qui vendent des betteraves entières. La plupart du temps, on les trouve déjà pré-cuites ou alors avec toutes les fans coupées, la racine coupée, tout ça. Donc ça, c'est l'effet de la société. Mais en plus, c'est parce que c'est quelque chose qu'on leur enseigne pas du tout. Et l'iconographie de la betterave, j'ai pas choisi la betterave par hasard, hein, parce que pour le coup, les enfants savent reconnaître une carotte ou un radis. Mais la betterave, c'est vraiment un truc qu'ils mangent tout le temps et dont ils n'ont aucune idée de quelle tête ça. Mais ça vaut aussi pour les choux, pour les pommes de terre. Non mais Fanny, je te jure, les pommes de terre. Là, c'est peut-être, il y en a quelques-uns qui la reconnaissent, mais très très peu.
La pomme de terre entière toute simple.
La pomme de terre entière toute simple dans sa peau, eh ben, il y a probablement 5 enfants sur 25 qui reconnaissent une pomme de terre.
Mais non.
Ouais.
Ah oui.
Ah oui, vraiment. Et on fait ce test à répétition, hein. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on l'a fait.
Oui, bien sûr.
Cette année, on a vu 45 classes. On fait ce test dans toutes les classes. Au démarrage de nos programmes.
Mais il faut absolument que vous récoltez toutes ces données.
Enfin, ouais, on les récolte. Ouais. C'est pour ça qu'on fait le test. Et justement, alors, pour revenir à ce qu'on fait, c'est pas des ateliers unitaires. C'est toujours des petits programmes avec une progression pédagogique. Avec différents axes, donc l'axe végétal, l'axe transformation, l'axe vraiment découverte du légume, et puis après on avance un peu sur, il y a aussi un axe pour les plus petits sur les sens, la découverte sensorielle, les goûts primaires, comment on les combine, et toujours avec beaucoup de main à la pâte. Donc les enfants font toujours des choses et goûtent toujours plein de choses.
Donc ça commence à quel âge?
On commence en maternelle.
Okay.
Plutôt avec les moyens et les grandes sections que les tout petits, parce que les tout petits sont vraiment tout petits. Mais on commence, on démarre avec les moyennes sections jusqu'au CM2 pour l'instant, et avec l'objectif d'aller au-delà vers les collèges et les lycées quand
ce sera possible.
Avec l'avancée, ça prend du temps, hein, de J'imagine. Mettre en place tous ces contenus pédagogiques, etc. Donc on démarre, on a des ateliers qui sont calibrés, des mêmes ateliers qui vont être calibrés selon les niveaux. Donc des choses sur la même thématique, des choses différentes qu'on va leur faire faire selon que ce sont des grandes sections ou des CE1 ou des CM1. Par exemple, notre atelier phare, hein, c'est un peu le premier qu'on fait toujours, et si on devait en retenir qu'un seul, ce serait celui-là, c'est la cagette de saison. Donc la cagette de saison, on arrive avec une cagette de légumes, comme son nom l'indique, plein de légumes de saison, si possible bio, sinon en tout cas poussés sans chimie, et si possible avec le maraîcher qui les a fait pousser. Donc c'est en général une très belle rencontre aussi. Et c'est toujours hyper émouvant de voir un maraîcher qui raconte à des enfants comment il cultive ses légumes, comment ça pousse, et ce qui se passe dans le champ, et son métier, et son quotidien. Et les enfants sont toujours plein de questions pour ces personnes. Donc ça crée des rencontres en même temps qu'un bénéfice de connaissances sur les légumes. Et s'ils sont tout petits, on va juste observer les légumes et les goûter éventuellement, mais juste en petites tranches ou comme ça. Et s'ils sont plus grands, on va... aller pousser un petit peu sur la préparation, faire une salade, une vinaigrette, une sauce, et déguster ça, et même se raconter d'un groupe à l'autre ce qu'on a fait, parce que chaque groupe, on fait des petits groupes au sein de la classe, en général 3 ou 4, chaque groupe va raconter à l'autre groupe ce qu'ils ont fait en termes de, nous, dans la sauce, on a mis du cumin, et nous, on a râpé les carottes, et toi, tu les as mis en rondelles, etc. Et c'est pas de la compète, jamais de compète. Mais c'est du partage de connaissances, voilà, et du partage d'expériences.
C'est génial. Concrètement ensuite, qu'est-ce que tu vois justement dans ce qui marche et ce qui marche pas? Ma question c'est comment t'as réussi à établir tes programmes pédagogiques?
Bah justement, les testants, évidemment. On a deux écoles pilotes aujourd'hui. Une à Boulogne, donc on a 18 classes à Boulogne. C'est l'école pilote du numérique, 18 classes de la petite section au CM2. C'est tous les niveaux. Et une autre école à Villejuif, où cette année, comme on a commencé un peu en décalé, c'est 6 classes et probablement l'année prochaine, 10 à 12 classes en élémentaire. Ces contenus, on les a constitués avec les profs. D'accord. Et en testant nos ateliers. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec quelques idées, on les a mis à l'essai direct avec des élèves, et on a vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, ce qui était intéressant, pas intéressant, là où il y avait du répondant ou pas, des choses qui étaient pas appropriées à certains âges, plus appropriées à d'autres, etc. Mais c'est un boulot de fou, hein.
J'imagine.
On n'a pas fini d'ailleurs. On est en plein dans le. C'est le cœur de notre travail. On est en plein écriture et réécriture et de tous nos contenus pédagogiques et de toutes nos fiches. Parce que l'idée, c'est de pouvoir ensuite les essaimer au maximum.
Oui, bien sûr.
Voilà. C'est pas un truc qu'on va garder pour nous et commercialiser. Hein. L'idée, c'est vraiment d'en faire quelque chose qui soit disponible pour tout le monde.
Et t'as un exemple justement de quelque chose qui n'a pas marché avec les enfants ?
Bah non. Pas vraiment. Il y a des choses qui sont moins intéressantes,
ouais,
que d'autres.
D'accord.
Mais honnêement, en fait, la grille d'idées de base, on l'a constituée avec un petit groupe de travail au démarrage. Avec, il y avait quelques chefs cuisiniers, quelques profs, quelques rédacteurs auteurs comme moi, un peu passionnés de cuisine avec des idées, des pourvoyeurs de contenu, on va dire, et ça fait une très belle, ça fait un très bel ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait les profs qui étaient capables de dire ouais non mais ça va passer, pas passer, les chefs qui avaient des idées un peu délirantes, et nous qui mettions tout ça en forme en rédigeant un peu ce que ça pouvait être. Mais tant qu'on n'a pas testé ces trucs-là, c'est de la théorie, ça on sait pas. Et en fait, très souvent, et c'est en ça que c'est marrant, parce que je vois souvent comment fonctionnent les startups, ce que nous ne sommes pas, parce qu'on est une association à but non lucratif. Les startups créent tout leur business plan à l'avance avec qu'est-ce qu'on va faire sur l'année 2, 3, 4, comment on va le faire, écrire tout son programme, tous ses contenus et tout. Nous, on n'a pas vraiment fait comme ça. C'est-à-dire qu'on, très vite, on nous a demandé des plans de développement et des business plans et tout, parce que, en fait, faut pas croire, l'en faut aussi quand on est une asso.
Bien sûr.
Mais avant toute chose, pour moi, l'essentiel, c'était tester ce qu'on voulait faire. Et voir si ça avait un intérêt, si on amenait quelque chose de nouveau au prof. Parce que si c'était pour qu'on nous dise non mais en fait ça on peut le faire, ça existe déjà dans les bouquins, ça il y a quelque part dans le programme, on nous l'a déjà amené, etc., ça rime à rien. Donc ouais, je voulais d'abord voir, vraiment tester sur le terrain si c'était quelque chose de valable. Il s'est avéré que ça l'était complètement, et en plus que c'était vraiment dans l'air du temps.
Ouais. Et tu nous as dit tout à l'heure, il a fallu que Jean te parle petite porte. Pourquoi tu nous dis ça? Quel est le problème avec les grandes portes?
La grande porte, j'entends l'éducation nationale. Le problème avec la grande porte, c'est on a un système extraordinaire, mais qui est aussi un système très lourd, parce que très administratif, affreusement administratif même, et qui a tendance à réduire un peu tout à néant, enfin, et ce qu'on voit aujourd'hui, et ça je le dis en ayant parlé avec des enseignants justement, qui se désolent que d'avoir des programmes très rigides. Alors je parle plutôt pour l'élémentaire et le second degré et le troisième degré. Pour la maternelle, ils ont pas mal de liberté sur comment ils décident d'amener leurs enseignements.
D'accord.
Pour ça que on a commencé en maternelle d'ailleurs. C'était assez facile de moduler nos programmes avec eux. Mais si aujourd'hui j'essaie de rentrer par la grande porte en allant taper à la porte de l'éducation nationale et en leur disant « Hey, on a des supers idées à rajouter à votre programme dans les écoles, tenez l'alimentation », ce serait immédiatement broyé à la machine administrative, d'une part, avec les réglementations d'hygiène, les réglementations de ci, de ça, en plus, en ce moment, avec la pandémie, etc., n'en parlons même pas, et tout l'aspect partage, joie de vivre, le côté humain, très très humain, très ancré dans le social et le partagé, et le plaisir aussi, tout parce qu'on le voit, hein, les enfants apprennent aussi parce qu'ils prennent plaisir à faire ce qu'ils font dans nos ateliers, et même, j'ai envie de dire un mot qui est cher à Alice Waters tout autant qu'à moi, le côté délicieux. Il faut que ce soit délicieux et il faut que ce soit beau aussi, que ce soit esthétiquement attrayant pour les enfants et qu'ils comprennent qu'on a fait ça avec soin parce qu'on prend soin d'eux, on veut prendre soin d'eux. Bah tout ça, ça passerait à la machine, voilà, la grosse machine. Mais à terme, c'est quand même notre objectif. Mais pour que ce soit vraiment compris, je pense que la manière dont je le vois, c'est que on va d'abord essayer de coloniser au maximum par les côtés et faire pousser plein d'arbres et plein de légumes partout, jusqu'à ce qu'à un moment, bah, l'éducation nationale se dise « Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est quoi cette forêt qui a poussé ?» Enfin, je délire peut-être, hein. C'est peut-être pas comme ça que ça se fera, ou ça se fera peut-être pas, mais c'est mon souhait. Et c'est comme ça que je veux le rentrer. C'est un peu une révolution délicieuse et en douceur. Voilà.
et justement, comment tu fais pour rentrer dans les petites portes ? Parce que moi, ça m'intéresse, j'en avais parlé, j'avais un projet un peu similaire à un moment que j'avais un peu abandonné parce que justement, la montagne administrative fait que je trouve qu'on peut vite abandonner des projets dans les écoles. Ouais. Comment tu t'y es prise ?
Eh ben, c'est juste des histoires humaines. C'est-à-dire que la première personne, au tout début, j'avais mon petit programme qu'on avait compilé là avec les copains, je suis allée taper aux deux portes des deux écoles élémentaires et maternelles par lesquelles étaient passés mes enfants, et je suis allée voir les directeurs et je leur ai dit voilà, je suis en train de monter ça. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça vous dit ? Les directeurs disent oui, bon, on va en parler à l'équipe, etc. Et je traversais la cour. Et il y a la maîtresse de grande section par laquelle tous mes enfants sont passés, qui me fait signe par la fenêtre de sa classe et qui dit Camille, moi ça m'intéresse. Je pense que le directeur venait de lui en parler, etc. Mais elle a vraiment, je me souviendrai toujours de cette vision de Valérie. Elle s'appelle Valérie, cette maîtresse, qui m'a alpagué comme ça alors que j'étais en train de traverser la cour pour me dire qu'elle voulait le faire. Et c'est une maîtresse géniale qui est là depuis très longtemps et qui croit beaucoup à tout ce qui est artistique et expression, voilà, créatrice. Et elle m'a donné le champ libre. Elle m'a dit, écoute, c'est la première fois que tu fais ça, vas-y, teste tes idées sur nous. J'ai une classe super chouette. C'est vrai que sa classe est extraordinaire. Ils étaient comme des petits CP alors qu'ils étaient encore qu'en grande section. La moitié savait lire. Hyper dynamique, hyper avec un vrai sens du groupe. Et ça a été un peu mes cobayes, quoi. À la fois la maîtresse et ce groupe où on a fait plein d'ateliers jusqu'à ce que ça soit arrêté par le premier confinement. Mais franchement, on avait déjà fait une douzaine d'ateliers. Aujourd'hui, nos programmes, ils sont plutôt de l'ordre de 6 ateliers par classe et par an. Okay. On a réduit un peu la voilure parce qu'on s'est rendu compte que si on veut faire beaucoup de classes et toucher beaucoup d'enfants, on peut pas en faire 36 par classe. Mais donc ces enfants ont testé un peu tout. Et bah, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui avait pas trop marché. C'est pas que ça a pas marché, mais que j'ai trouvé ça trop facile. Tout ce qui est gâteau.
Ah oui.
Truc sucré, tu vois, les crêpes.
Puis ils le font chez eux, peut-être.
Voilà. Ils le font chez eux. Ils le font déjà avec leurs maîtresses. Les maîtresses font souvent des gâteaux yaourt et tout ça, tu vois. Donc, c'est pas la peine. Nous, on va amener autre chose. Je veux dire, on va amener la cagette de légumes, on va amener les boulettes anti-gaspi, on va amener les burgers végétaux, les soupes à base de fan, l'exploration aromatique, des choses auxquelles les maîtresses pensent peut-être pas forcément et surtout qui sont peut-être difficiles pour elles à mettre en place. Donc c'est ça. Donc par exemple, je me suis dit bon bah l'atelier gâteau, on peut le virer. Parce que c'est pas la peine, c'est pas nécessaire.
Et au contraire, est-ce que tu as vu chez certains enfants justement des déclics par rapport aux questions peut-être environnementales ?
Ah bah complètement. C'est en fait on observe des trucs tous les jours. Alors question environnementale, ça dépend de leur âge.
Ouais.
Mais en tout cas, un moment d'éveil et un moment où tout bascule. Tout bascule. Déjà, il faut savoir que ces enfants qui ne savent même pas ce qu'est une betterave, comme je te disais tout à l'heure. Vont, mais à quelques très rares exceptions près, ils mangent tous tous les légumes qu'on leur propose, mais avec un appétit féroce. Faut à croire qu'ils sont complètement affamés. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est d'ailleurs, ça peut être le matin ou l'après-midi, avant, après la cantine, ils peuvent sortir de même d'avoir goûté ou je sais pas quoi. Parce que c'est dans un moment, justement, d'éducation, dans un moment scolaire, ils ont une autre approche à ce qu'on leur propose. Moi, j'ai vu une maman un jour qui regardait avec des yeux mais effarés sa fille qui dévorait un bol de légumes crus à peine assaisonnés avec juste un peu d'huile d'olive, du sel et du citron, tu vois, suite à un atelier cagette. Et parce qu'on invite les parents, hein, donc les parents observent ça, etc. Et elle me regarde, mais jamais elle a mangé de légumes comme ça à la maison, jamais, elle aime pas les légumes. Et je fais ouais, mais je vous garantis que ça arrive tout le temps. Non, mais ça arrive tout le temps. Et elle était là, alors elle essayait de voir si sa fille serait d'accord pour en manger encore le soir, le lendemain, etc. Je dis, vous savez, on garantit pas le service après-vente, hein, mais bon, il se peut qu'il y ait des changements. Non, le truc qui se passe, c'est qu'il, comme on le fait avec, on essaye vraiment de leur donner plein de plaisir à le faire, et c'est sûr, et surtout, c'est eux qui font. Et donc quand le gamin, il a d'abord découvert les légumes, puis il s'est rendu compte que c'était plein de terre, il faut les laver, donc on leur fait le laver, et puis il faut les éplucher, donc ils s'amusent à éplucher, ils adorent éplucher, hein. Et puis ensuite on leur fait râper ou malaxer dans des mortiers, il y a plein d'outils qui évitent qu'on se fasse mal aussi, qu'on a développé. Alors c'est pas qu'on leur empêche de prendre des couteaux, bien au contraire, on leur donne des couteaux mais on les surveille de près, il faut aussi les responsabiliser, mais il y a plein d'autres manières de découper un légume, avec les mains, avec un mortier, avec une râpe, avec un économe, voilà. Et du coup, une fois qu'ils ont fait tout ça, qu'ils ont par ailleurs fait la sauce, je reviens sur ce même exemple de la cagette et de la salade, ils sont hyper fiers, hein, et ils ont envie de manger ce qu'ils ont fait. Alors parfois, ils disent « c'est bon, mais c'est pas si bon ». Mais en général, ils dévorent leur bol de légumes.
C'est génial quand même. Ça démontre à quel point, en fait, le fait d'inclure l'enfant dans tout le process, en lui montrant, en lui cuisinant avec lui, ça change tout, quoi.
Ça change absolument tout. Mais j'avoue que je pense qu'on a un avantage sur les parents.
Oui, bah vous n'êtes pas les parents.
On n'est pas les parents. On n'est pas dans l'incentive d'obligation. Mange tes légumes, sinon t'auras pas de dessert, etc. C'est un autre contexte complet. Et en plus, il y a voilà, les enfants savent presque subliminalement qu'ils sont dans un moment apprenant, qu'ils sont là en présence de l'enseignant qui leur dit aussi concentre-toi, écoute ce qu'ils disent, etc. Ce que disent les animateurs. Donc, du coup, ça crée vraiment une autre dynamique. C'est pas la même chose.
Et du coup, t'essayes aussi de leur inculquer les différents types d'agriculture, ce genre de choses. Ça, j'imagine que ça fonctionne bien mieux quand on voit la betterave ou quand on voit.
Bah bien sûr. Et en fait, idéalement, la suite de l'atelier cagette en présence du maraîcher, c'est qu'on va chez le maraîcher. Et on les emmène. Alors on n'a pas pu beaucoup le faire avec le Covid là, mais l'idée c'est. Bon, je pense qu'on va faire pas mal de sorties là en juin avec nos classes. C'est vraiment une fois qu'ils ont créé ce lien avec le maraîcher, on essaye vraiment de les emmener chez ceux qu'ils ont rencontrés. On les emmène là, on leur dit voilà, c'est ça un champ, c'est comme ça que ça pousse une carotte ou une betterave, regarde, même leur faire travailler un petit peu, et puis aussi en profiter pour faire un pique-nique qui n'a rien à voir avec le pique-nique auquel ils sont habitués dans les sorties d'école, c'est-à-dire un pique-nique où on va amener une bonne miche de pain, un fromage frais, ils vont cueillir plein de légumes, de la salade, des herbes et tout, ils vont se faire des sandwichs qu'ils auront fait eux-mêmes avec les herbes et les légumes de la ferme. Et c'est pas pour dire mon travail avec des maraîchers extraordinaires.
Oui,
c'est pas n'importe qui, voilà. Il faut que je les nomme parce qu'ils sont géniaux. Il y a Erwan Imbert de la ferme des Préneufs qui est venu plusieurs fois dans nos classes. Ça lui en coûte parce que ces personnes sont en général très 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 occupées et leur prendre quelques heures de leur temps c'est toujours difficile. Mais je lui parlais encore ce matin et il me disait non mais heureusement que tu m'as traîné là-dedans, c'est extraordinaire, ça change tout quoi. Et puis il y a une jeune fille qui s'appelle Marie Proie, là plutôt dans le nord de Paris, à Gonesse, qui a une histoire géniale parce que c'est une fille de maraîcher qui travaille dans la pub et qui à un moment a eu une espèce de wake up call, de déclic en se disant mais qu'est-ce que je fous là, mais ça n'a aucun sens et non je vais revenir à la ferme de mon père et je vais reprendre la ferme et la faire passer en bio et tout. Et c'est très difficile pour elle en ce moment, elle galère, mais elle est venue en classe à Sarcelles, dans une classe de Sarcelles qu'on avait. Et quand elle a présenté ses légumes, c'était hyper émouvant. Elle a juste raconté son histoire tout simplement aux enfants. Et il y a un gamin, donc c'est des CM1, qui a levé le doigt et qui a dit « Madame, 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 moi aussi je veux devenir maraîcher !» Et ça, mais voilà, ça nous a réjouis, mais c'est pleinement. Et voilà, donc on a ces gens-là qui sont là. On a aussi eu la chance d'avoir Romain Médère, le chef 3 étoiles du Plaza, qui est venu avec son second et son maraîcher du potager de la Reine à Versailles, qui sont arrivés avec une chariot d'incroyables légumes issus de là, et chez qui on va probablement pouvoir aller en juin. Donc c'est une chance folle, mais en fait ils le méritent, les enfants le méritent, parce que je pense que c'est vraiment génial qu'ils puissent voir tout ça et ces choses magnifiques.
Et alors tu dis que les parents viennent. Ouais. Ça m'intéresse ça par rapport à ton expérience notamment de la parentalité, de la maternité. T'as retenu des expériences, des choses qui s'étaient passées avec tes enfants. Toi, tes enfants, ils ont toujours mangé des légumes, il n'y a jamais eu aucun problème.
Ah non, je te cache pas que ma fille qui a 7 ans, la plus petite, elle fait un peu la gueule sur les légumes verts. Hein. Mais elle sait qu'elle doit les manger, donc ça, c'est sûr qu'elle les mange pas avec le même appétit que des raviolis, quoi. Mais bon. Non, mais il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a... Elle, notamment, elle souffre énormément d'être dans que de l'urbain. Quand on est en voiture, déjà, elle déteste la voiture. Quand on est en voiture, elle, dès qu'elle voit des immeubles, elle dit « c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche ». Et dès qu'il y a des arbres, des champs, elle dit « c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau ». Elle a une espèce d'ultra-sensibilité à la nature. Et puis, bon, il y a une autre histoire que je raconte souvent, qui est celle de... J'ai 3 enfants, donc ma seconde, Cléo, qui aujourd'hui a 14 ans, quand elle avait 5 ans, voulait planter, me voyait faire mes petits semis et tout, et je lui ai dit bah tiens plante un haricot, et donc elle a planté un haricot et elle s'en est occupée et tout, l'haricot a poussé, a fait 3 cosses qui ont fait 9 ou 10 haricots, et elle a juste, et c'est vraiment c'est sa phrase, la phrase qu'elle m'a sortie à ce moment-là qui m'a scié, elle m'a dit maman c'est fantastique la vie. Et je me suis dit mais c'est dingue. Elle a planté un haricot dont elle s'est occupée et elle a compris le cycle de la vie. C'est-à-dire parce que ces 9 petits haricots là, ils étaient pareils que celui qu'elle avait planté, donc elle avait compris la démultiplication de la graine. Et d'ailleurs, ça nous a inspiré un atelier qui s'appelle de la graine aux légumes et où on montre vraiment voilà le parcours d'une graine, de toutes les graines qui existent. Et c'est rigolo parce que quand tu parles de graines. Eh ben, tu peux aussi parler aux enfants de biodiversité, évidemment, de semences paysannes, de tolérance aussi, parce que on parle, tu vois, des légumes moches, des différentes variétés, d'humanité aussi. Moi, je me suis retrouvée un jour avec, j'avais plein de haricots d'une même variété, mais qui sont de tas de couleurs. Et je leur disais, vous voyez, c'est comme l'espèce humaine, en fait. Il y a des jaunes, des noirs, des rouges, des blancs, mais on appartient tous à la même espèce. Et les enfants, ils ont kiffé ça, ils ont compris, rien qu'avec des petits haricots dans la main comme ça. Donc ouais, il y a des petites choses de mes enfants et puis des frustrations aussi qui datent de cette période que moi j'ai vécue où je me suis fait retoquer des envies et des idées que j'avais. Et puis il y a eu aussi, en termes d'expérience parentale, un super prof qui m'a convié, à qui j'avais proposé mes services aussi en disant hey, moi je peux amener des trucs sur l'alimentation, je peux parler aux enfants, je sais pas, du circuit court, du voyage du légume, qui sont aujourd'hui devenus quelques aussi des thématiques qu'on traite en atelier. Et il s'appelle Xavier, ce prof, et c'était le prof de mes 2 premiers en CM1, CM2. Et on a fait plein de trucs, c'est-à-dire qu'il m'a convié en sa classe pour discuter avec les enfants, etc. Il m'a vraiment laissé le champ libre. Et 2 choses sur Xavier. Premièrement, il a quitté l'éducation nationale pour devenir paysan en permaculture. Tiens donc. Et deuxième chose, il est dans le conseil d'administration de l'école comestible. Voilà, donc ça a noué des liens et c'est vrai que tout ça a beaucoup de sens, ça s'est construit comme ça.
Mais aussi le fait que les parents viennent à tes ateliers, j'imagine qu'il y a des liens qui se font entre parents et enfants et que même parfois peut-être les parents éduquent entre guillemets les enfants. On le voit beaucoup.
Non, c'est les enfants qui éduquent les parents.
Oui, pardon. Oui, c'était ce que je voulais
bien
dire.
Sûr.
Les enfants éduquent les parents. On le voit beaucoup avec le tri sélectif. Des gens de ma famille me disent c'est fou, ma fille maintenant elle me fait la morale quand je jette le déchet au mauvais endroit.
On a eu un retour, plein de retours, mais quelques moments comme ça aussi. Une maman un jour qui a écrit une lettre à la maîtresse en lui disant écoutez, je sais pas ce que vous faites là avec vos ateliers comestibles, mais ma fille est rentrée de l'école en exigeant qu'on aille faire le marché le lendemain et surtout qu'on achète que des légumes bio, alors que je pense que la semaine dernière elle savait pas ce que c'était qu'un légume bio. Bon,
j'adore.
Il y a aussi toujours avec Marie Proix, cette maraîchère, ce même atelier qu'on avait fait avec elle, où il y avait un papa qui était là, un papa de Sarcelles, clairement pas le genre de papa qui va faire son marché chez les bobos quoi, et qui a observé tout l'atelier dans le fond de la salle avec sa fille à côté qui faisait des trucs, et à la fin il est venu voir Marie et lui a dit mais bon vous les vendez vos légumes parce qu'ils sont super et ils sont délicieux mais moi je sais pas si je peux les acheter. Elle a dit mais si venez Gonesse, je suis à 3 km et voilà, on les vend à la ferme. Donc venez le vendredi ou le samedi, etc. Et Marie m'a dit que bon, lui, elle l'avait pas vu, mais il y avait d'autres mamans qui avaient assisté à l'atelier, qui étaient venues.
Génial.
Et donc on se dit qu'aussi pour l'économie locale, c'est formidable. Mais les parents, on y tient énormément à les avoir pour plein de raisons. D'abord parce qu'effectivement, ben c'est pas les derniers qu'il faut éduquer non plus, hein, à plein d'égards. Que c'est très important qu'ils comprennent et qu'ils voient ce que font leurs enfants et qu'ils comprennent ce dont les enfants vont parler à la maison aussi. Qu'ils soient à même de faire des recettes avec les enfants, parce qu'on distribue tout ça aux enfants. Les recettes, on leur donne même des petits échantillons de trucs qu'ils peuvent ramener à la maison pour faire goûter, etc. Donc on espère qu'il y a vraiment une suite à la maison. Et puis, on a besoin de bénévoles.
Ouais.
Donc non mais c'est vrai, il y a rien de mieux qu'un parent bénévole qui s'investit dans l'atelier. Nous on a plein de bénévoles hein qui travaillent avec nous, mais il y a rien de mieux qu'un parent bénévole.
Intéressant. Ouais. Et alors quelles sont les limites que t'as identifiées dans le développement de vos ateliers aujourd'hui?
Alors la première limite c'est quand les profs s'investissent pas assez. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin nous de cette co-construction avec les profs. Je dis toujours à mes équipes, on n'est pas des prestataires de service. Si vous voyez l'enseignant qui amène ses enfants et qui se barre faire autre chose, vous le rappelez. Vous lui dites monsieur, madame, revenez, on a besoin de vous. Parce qu'on a besoin des enseignants, pas seulement pour faire la discipline et encadrer les élèves, on a besoin d'eux parce que c'est eux qui, au final, vont être les plus porteurs de ce qu'on amène. C'est-à-dire, nous, on est des messagers, c'est-à-dire qu'on arrive, on fait nos trucs, c'est un moment chouette, si possible, plusieurs moments chouettes à répétition, mais si on veut que ça dure, si on veut que ça essaime, il y a un moment, il faut que les profs s'en emparent. Il faut qu'en amont, ils préparent un peu le truc, le terrain avec leurs élèves, qu'en aval, ils poursuivent, on leur donne plein d'outils de support pédagogique qui peuvent être un peu des prolongements, et surtout, qu'on espère qu'il y en ait qui, à un moment, aient envie de s'en emparer pleinement et de le faire eux-mêmes. Ça, on n'y est pas encore. On est en train de développer un peu, de réfléchir aux formations pour les profs, et en attendant, on essaye aussi de former plein de gens, de porteurs de projets, qui pourront, alors suite et s'aimer à leur manière, mais la limite c'est l'humain, c'est-à-dire que j'ai aucune limite. Enfin aujourd'hui, si j'écoutais toutes les demandes, on serait dans déjà 150 écoles.
Ah oui.
Il y a vraiment. Je ne suis pas en quête d'écoles. Voilà, autant le dire. Du coup, on a aussi commencé à faire une grille de pas de choix, pas de sélection, mais on veut essayer de toucher en en premier des populations les plus défavorisées qui en ont le plus besoin. On veut essayer de voilà de faire en sorte qu'il y ait plusieurs classes qui en bénéficient dans une école et pas seulement une. Donc voilà, on va mettre la priorité sur les écoles où il y a un projet d'école dans ce sens-là. Puis il faut que ce soit un minimum confortable pour nous. Donc il y a quelques contraintes matérielles aussi, enfin des choses comme ça. Mais en gros, voilà, c'est pas les écoles qui manquent. Je pense que tout aujourd'hui, une énorme majorité des équipes pédagogiques sentent qu'il y a urgence à ce niveau-là. Au sens où c'est ironique parce que il y a une incentive de l'éducation nationale pour l'éducation à l'alimentation. Okay. C'est dans les textes, hein.
Ah bon, ah, oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que
j'étais. Ouais, non, c'est dans les textes. Par contre, il n'y a aucune méthodologie qui est transmise.
Donc, c'est-à-dire que dans les textes, il est écrit, on éduquera l'enfant sur les questions alimentaires.
Il est absolument recommandé d'utiliser des outils d'éducation à l'alimentation, etc. Il y a même un vademécum de l'éducation nationale qui est paru l'année dernière, qui se base sur des analyses faites par le Conseil national de l'alimentation, des bienfaits de l'éducation à l'alimentation et au potager. Sauf que c'est bien gentil, mais quand on leur dit ça, les profs disent « Ok, mais je fais comment ?» Il y a zéro formation qui existe. Aujourd'hui, les profs, ils ont accès à des formations payées, hein, qui vont être rémunérées, sur les maths et les français. C'est tout. Si on leur propose des formations autour de la cuisine ou de parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir cuisiner ou de savoir faire un potager et si on leur propose des formations ben il faut qu'ils les payent avec leur propre sous donc les profs c'est pas non plus voilà ils ont pas les moyens donc en fait ils ont quelques outils très très basiques ouais la pyramide alimentaire quelques notions de nutrition qui sont extrêmement ennuyeuse et poussiéreuse et voilà et donc en fait nous on arrive en disant bah on propose de l'action quoi et d'ailleurs dans le fameux vademécum de l'éducation nationale il est écrit aussi que il est fortement recommandé de recourir à des associations extérieures des organismes extérieurs qui peuvent amener les contenus donc on s'est dit quand j'ai lu ça je me suis dit ah bah on est bien tombé on est pile dans le truc là
voilà. Ok, incroyable. Je n'avais aucune idée du fait que c'était quand même inscrit dans les programmes. Quoi,
c'est préconisé, on va dire. Préconisé.
Ouais, ouais mais c'est quand même quelque chose de positif, même si en effet on leur donne rien comme élément derrière. Du coup, toi, politiquement, qu'est-ce qui changerait la donne? Qu'est-ce qui fait qu'on irait plus vite sur ces questions-là?
Il y a des vraies volontés politiques. Après, ce que j'observe, c'est qu'il y a des volontés politiques. On a été approché par beaucoup de maires, de conseillers municipaux, d'élus divers et variés, en disant oui, il faut absolument que vous meniez ça chez nous, c'est très bien, venez, etc. Et puis après rien derrière. C'est-à-dire que faut dire ce qui est. Hein. Nous, nos ateliers, on veut pas les faire payer aux familles, donc on les amène quasiment gratuitement à l'école. On demande juste à l'école de payer les denrées alimentaires. Mais derrière, ça a un coût. C'est-à-dire qu'on paye des coordinateurs, oui, on paye du matériel, etc. Les ateliers, ils sont pas gratuits. Ils ont un coût. Donc, ce qui est marrant, c'est que les élus sont toujours là quand il faut faire un truc. Puis après, quand on leur demande de nous soutenir financièrement, il n'y a plus personne. À l'inverse, il y a des choses très, très positives qui se passent parce que je vois, par exemple, dans notre école pilote à Villejuif, on a eu quelques difficultés au démarrage. Notamment avec la mairie, qui était pas du tout répondante. Puis en plus, on a démarré, c'était au moment des renouvellements des municipalités, des mairies et tout, des élections. Donc c'est un peu compliqué. Et quand on a, par exemple, à Villejuif, il y avait zéro potager, mais avec un potentiel énorme, parce qu'il y a de la pleine terre tout autour de la cour. Et on a lancé l'idée, ils ont regardé ça d'un air mitigé, en disant « Oui, ben on va voir, proposez-nous un truc ». On a proposé un truc, ils ont dit non, mais nous ça nous va pas, on va le faire par un prestataire extérieur. Bref, je passe les détails, ça a pris des plombes, toujours rien. Finalement, je dis écoutez, on va le faire nous-mêmes. On va le faire avec des bouts de ficelle, avec ce qu'on peut, avec l'argent qu'on va lever et tout. On veut ce potager dans l'école, bon sang. On veut pas attendre 3 ans d'être passé par des marchés publics pour avoir le potager en bonne et due forme et qui aura coûté beaucoup trop cher. Donc on va le faire avec nos moyens. Et à ce moment-là, ils se sont réveillés. Et ils nous ont dit « Ok, comment on peut vous aider ?» Et là, tout d'un coup, Bah, la semaine dernière, on a vu arriver des planches, de la terre, des billes d'argile, des outils qu'on avait demandé, mais sans espérer qu'un jour ça serait livré, et on a pu construire les potagers en 2 jours.
Génial.
Et là, encore, il n'y a pas plus tard qu'hier, on leur a dit bah il faut aussi faire une analyse de sol. Ouais, ok, on prend en charge l'analyse de sol. Voilà. Donc en fait, je me dis il y a un truc qui donne espoir parce que peut-être qu'en voyant qu'on fait, bah l'action vient. Qu'il faut pas attendre et c'est un peu ma philosophie surtout. C'est-à-dire que moi, la raison pour laquelle j'ai un peu réduit mon activité, je l'ai pas complètement quittée, mais réduit mon activité de journaliste pour faire ça, c'est que j'ai eu envie de faire plutôt que de dire.
Ouais, je comprends.
Et d'être vraiment dans l'action. Et là, je m'aperçois que tout ce qu'on met en place, toujours avec mes équipes, je suis un peu comme ça. Je dis non, mais on y va. On y va, on y va. Et certains sont « Ouais, mais non, mais attends, parce qu'on n'a pas eu les feux verts, les validations. » On les dit « Tu vas voir, ils vont venir après les feux verts. » Bon, ça marche pas toujours, mais c'est quand même... On s'aperçoit que à partir du moment où on fait et qu'on montre que ça peut être fait, ça suit derrière. Et c'est un peu ce que je me dis qui pourrait se passer à grande échelle.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que si on attend les politiques, il peut ne rien se passer et qu'il y a un moment, il faut faire à leur place.
Voilà.
Et qu'ils prennent le cheval.
Mais s'ils nous voient faire et qu'on leur dit, allez, les politiques, venez avec nous. Ils se rendent bien compte que ça vaut le coup. Que c'est tout à leur intérêt de faire ça aussi, d'être
mais
avec nous.
En tout cas, si je résume, j'ai l'impression que quand même, ce qui changerait la donne pour faire passer ton projet à l'échelle, c'est les financements publics.
Ouais. Et en même temps, pas trop non plus. C'est-à-dire que je pense que on a besoin d'être à la fois de garder notre indépendance. Justement, c'est toujours cette histoire de petite porte, grande porte. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'étais 100% financée par de l'argent public, je serais un peu les pieds et les mains liés avec justement des tas de contraintes et puis aussi tous ces comptes rendus continuels qu'il faut faire à l'administration, qui pour une structure aussi jeune que nous. Sont très très lourdes. C'est-à-dire qu'il y aurait la moitié de mon équipe qui s'est consacrée à faire des comptes rendus plutôt qu'à agir. Donc on essaye de garder un bon équilibre là-dessus et à se dire voilà du financement public, mais de l'aide aussi du mécénat privé. Alors en passant avec quelques contraintes, notamment que on a voté contre tout apport de l'agro-industrie dans nos financements, parce qu'évidemment ce serait trop facile, hein. Si quelques grandes marques et de la grande distrib se mettaient à nous donner de l'argent, et puis on se dit aussi qu'une manière très probablement très saine de lever de l'argent dès qu'on pourra, c'est de faire des banquets caritatifs avec tous nos amis chefs qui m'ont déjà dit qu'ils seraient hyper partants pour le faire et où serait un moment génial et super délicieux aussi en passant. Donc, voilà, mais ça dans le contexte actuel, on peut pas le faire. Donc il y a un mix, mais je pense que moi ce qui me manque aujourd'hui de la part des administrations et des politiques, c'est un suivi et un soutien sur la durée.
Voilà. Ouais.
Avec cette sensation que oui, on soutient ce que vous faites, on est là et on est toujours là.
Ok, mais ça m'amène à deux questions. La première, c'est est-ce que d'un point de vue financier, tu n'as pas pensé à faire payer les familles qui en ont les moyens? Et deuxièmement, pour qu'il y ait un suivi dans la durée, in fine, il faut quand même, et j'imagine que c'est ton plaidoyer principal, que ça soit vraiment intégré dans les programmes scolaires.
Absolument. Alors pour répondre à la deuxième question, c'est l'idée. C'est l'idée, mais en se donnant vraiment le temps qu'il faudra, et ça prendra peut-être 20 ans, pour que ce soit inscrit vraiment comme on l'entend. C'est-à-dire qu'on arrive à définir nos contenus et nos programmes suffisamment bien pour qu'ils soient vraiment parfaits, enfin je veux dire, bien foutus, suffisamment bien foutus pour être dans toutes les classes, mais suffisamment... bien foutu pour que aussi on puisse faire entrer toutes nos idées sur l'alimentation durable, sur l'agroécologie, sur la permaculture, sur l'importance voilà du végétal, etc. sans aucune voilà ça c'est, bon je trouve pas le mot pour faire entrer l'alimentation durable dans les écoles, mais sans que l'éducation nationale ait mis un peu son chapeau de métal par-dessus. Par rapport à l'autre question que j'oublie, pardon.
L'autre question, c'était justement, est-ce que ça vaut pas le coup de faire payer les familles en fonction de leur budget ?
Ça, c'est très compliqué parce que dans une même école, tu vas avoir des familles qui ont des budgets différents. Donc, a priori, non. Mais par contre, c'est marrant que tu dises ça parce qu'on est en pour parler en ce moment avec une école privée très prestigieuse parisienne et au début et qui sont venus nous chercher. Et au début, moi, j'ai dit ah, non, pas du tout. On va pas du tout aller travailler avec les écoles privées. T'imagines ? Alors là, on est foutus. Et en fait, j'ai rencontré le directeur qui m'a dit deux choses. Qui m'a dit, mais vous savez, il faut aussi éduquer les élites, hein, parce que si on n'éduque pas les élites sur une bonne alimentation, on se retrouve avec des Donald Trump qui bouffent que des burgers. Et deuxièmement, on peut peut-être réfléchir autrement au financement. Et finalement, l'idée, c'est que cette école, où il y a effectivement des familles qui ont de l'argent, soit une école mécène. Donc non seulement ils vont financer, là on va lever de l'argent auprès des parents pour financer le programme qui va se passer dans leur école, mais aussi ils vont financer une autre école. Une école qui n'a pas les moyens de se financer.
C'est une super idée. Voilà.
Ouais. Et donc on va pas en faire 12 000 comme ça, mais on va tester ça avec cette école-là et on verra si ça marche bien et si les parents répondent positivement là-dessus.
Oui, parce que vous avez pas encore levé les fonds à l'heure actuelle.
Non. Okay. Non, c'est pour l'année prochaine.
Ma dernière question, ce sera sur les projets d'avenir. Là, alors, on a bien compris tes projets à long terme. À très court terme, c'est quoi la suite pour l'école comestible ?
Il y a plein de choses et surtout, il y a justement plein de nouvelles manières d'arriver dans les écoles. J'ai récemment discuté avec une structure de restauration collective qui aimerait faire un partenariat avec nous. Pour être un petit peu, pour incuber l'école comestible dans leur zone. C'est dans le 93 en plus, donc c'est pile une zone où on veut être. Et porter les programmes pédagogiques qu'on fait en parallèle avec leurs actions sur une resto collective plus durable. Donc ça, pour moi, c'est génial. Et ce sera complètement financé par leur structure. Donc là, on n'a plus de soucis de financement. Par ailleurs, une autre plateforme possible, donc qui vient d'être évoquée avec avec des partenaires, c'est le PACT, qui est une plateforme d'arrêt de culture, de programme d'arrêt culture que les profs peuvent solliciter avec des associations externes. Et on nous a suggéré que notre association était parfaitement adéquate pour ce format-là. Donc ça, c'est super aussi. Et ça c'est complètement validé par l'Éducation nationale, soit dit en passant. Donc on commence à avoir quelques marqueurs là.
Et ça m'amène quand même à une dernière question. Je m'excuse, mais sur justement les cantines. Ouais. Tu vois un progrès par rapport à ça, parce qu'on a parlé de la loi Egalim dans l'introduction qui a imposé 50% de produits durables d'ici 1er janvier 2022. Donc 1er janvier 2022, c'est demain. Tu vois des améliorations?
Très compliqué les cantines, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne dans les cuisines. Ouais. Que, en général, ce sont au mieux des cantines, des cuisines centrales d'un arrondissement ou d'une petite ville. Au pire, c'est complètement c'est parti ailleurs,
externalisé,
et c'est des grandes compagnies industrielles de restauration qui s'en occupent, à qui c'est délégué. Donc c'est très compliqué parce que s'il y a pas d'interlocuteur, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi toutes mes histoires c'est des histoires humaines. Donc s'il y a personne au bout de la ligne ou personne de l'autre côté du comptoir et que c'est que des barquettes qui servent à être réchauffées, on peut pas faire grand chose. Et moi, j'avoue, évidemment, ça me désole que j'ai des enfants qui dans nos ateliers le matin vont découvrir les fabuleux légumes d'Erwan Imbert et qui à midi mangent des trucs informes, ignobles à la cantine. Ça c'est vraiment on est dans une contradiction de fait, c'est terrible. Et donc justement c'est pour ça que ce type d'association avec des structures de restauration collective qui essayent autant que faire se peut d'aller vers du mieux et donc on peut essayer de les influencer par l'intérieur, me semble extrêmement vertueux. Mais c'est ce qui est le plus compliqué. On s'active aussi pas mal là-dessus et on parle à différents acteurs locaux, élus, associations parentales qui se battent pour ça en suggérant quelques idées. Pour l'instant, c'est sûr qu'on est moins avancé là-dessus, mais on peut pas tout faire à la fois. Mais après, dans les autres projets, il y a aussi l'essaimage sur le territoire et pour finir, le petit truc, c'est qu'on a une antenne ex-Marseille qui est en train de se lancer.
Parce qu'aujourd'hui, vous êtes qu'à Paris.
Aujourd'hui, on est qu'en Île-de-France. Île-de-France, on est sur dans une douzaine d'écoles dans l'Île-de-France, 45 classes et à peu près 1 000 d'enfants bénéficiaires. Et on devrait presque tripler ça l'année prochaine. Mais voilà, et donc il y a aussi cette branche ex-Marseille qui est en train de se créer et qui devrait être active dès l'année prochaine aussi.
Génial, merci beaucoup Camille.
Merci Fanny.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe Engagé, le Caribou Volant. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.